quelques lignes qui concernent l'église de Smyrne, donc la deuxième église, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. L'église de Smyrne, ce qui est marquant pour elle, ce sont les souffrances. Je connais ton affliction. Je connais tes souffrances. Et une église qui n'a pas été bloquée, mais une église qui a progressé et qui a connu cette croissance spirituelle, non pas au sein de la facilité, mais au sein de l'opposition, au sein de la croissance. De toute évidence, les chrétiens de Smyrne n'avaient pas, comme ceux d'Éphèse, perdu leur amour pour le Christ, car ils étaient prêts à souffrir pour lui. Sommes-nous prêts à souffrir pour Jésus-Christ? Cette ville a été fondée, elle aussi, comme Éphèse, environ 1000 ans avant Jésus-Christ. Et vers le 7e siècle avant Jésus-Christ, elle a été totalement détruite. Et au 4e siècle avant Jésus-Christ, elle a été reconstruite par Alexandre le Grand. À partir de là, elle s'est développée et durant 20 siècles, elle a été le port principal de la mer Égée. Actuellement, cette ville existe encore. C'est la ville d'Izmir, en Turquie. C'est la 3e ville de la Turquie, avec un peu plus de 4 millions d'habitants. Cette ville compte 7 églises catholiques, 4 églises protestantes et une église anglicane construite en 1835 qui est devenue un jardin, un cimetière, en 1960 un centre culturel sauvage et qui enfin a été donnée en avril 2001 à une église évangélique. Et en 2001, je suis allé faire une réunion dans cette église, donc à Izmir, en Turquie. Les commerçants de Smyrne faisaient déjà fortune, et pour entrer dans leur corporation, il fallait se soumettre à certaines exigences du culte païen. Il y avait beaucoup de temples, un temple dédié à l'empereur Tibère, et cette faveur n'a été d'ailleurs accordée que à la ville de Smyrne. C'était l'édifice le plus important de la cité. Et les chrétiens, dans un souci d'honnêteté, ne se sont pas conformés à l'esprit du siècle. C'est d'ailleurs l'exhortation que la parole de Dieu nous demande. Et là, eux, ils l'ont vécu de très près, et ça a été interprété comme un manque de patriotisme, voire de trahison. Et c'est ce qui a été à la base de leur souffrance et de leur persécution. La volonté de Dieu, nous savons qu'elle est clairement exprimée dans l'Écriture quand il nous est dit de rechercher ce qui est bon et agréable à Dieu. Et on a le sentiment que les chrétiens de Smyrne recherchaient ce qui est bon et agréable et ils n'ont pas voulu se plier aux exigences des coutumes qui sévissaient donc dans leur ville. Et il y a cette expression « synagogue de Satan ». Alors, à Smyrne, les Juifs étaient très nombreux. Et cela semble évoquer une persécution religieuse violente. Ils prétendaient adorer le même Dieu que les chrétiens, mais beaucoup cultivaient les apparences de la piété. Allait-il jusqu'à adorer l'empereur par opportunisme? On ne sait pas. Mais disons que ces gens, enfin du moins une partie de cette population, on ne la prenait pas au sérieux parce qu'ils jouaient sur la religion. Ils avaient des apparences pour essayer de se faciliter la vie, de faciliter les transactions commerciales, etc. Et c'est la raison pour laquelle ils étaient appelés synagogue de Satan, parce qu'au fond, il n'y avait rien de sérieux. La seule chose qui primait, c'était les affaires. Et pour faire des affaires, s'il fallait montrer que l'on pouvait être chrétien, pourquoi pas, montrer que l'on était juif, pourquoi pas. Je veux dire, ils étaient prêts à tout pourvu qu'ils puissent signer des contrats. Polycarpe a été nommé évêque de Smyrne. Il a rempli les fonctions de son ministère pendant environ 70 ans. Et lorsqu'éclate la persécution commandée par l'empereur Marc Aurèle, Polycarpe était très âgé. On pense qu'il avait environ 95 ans. Et il va tenir tête au proconsul lorsque celui-ci l'interroge. Et il est brûlé vif. Les Juifs, au mépris des ordonnances lévitiques, avaient assemblé un jour de sabbat le bois pour le bûcher. Et quand on va dans cette ville, il y a une église qui est dédiée à Polycarpe. Et là, on a donc pas mal de détails de l'événement qui s'est produit donc à l'époque. Et on se rend compte que les Juifs, là, dans cette circonstance, ont causé beaucoup de tort aux chrétiens. Puisque, comme je viens de le dire, un jour de sabbat où il faut rien faire, ils ont transpiré pour ramasser le bois afin de mettre le feu et de brûler donc l'évêque de Smyrne. Malgré la présence à Smyrne d'une synagogue de Satan, une église fut créée. Et elle se développe et elle engendre en fin de compte des héros de la foi. Et en fin de compte, c'est ce qu'on va retrouver pratiquement dans toute l'histoire de ces églises. Il y a la persécution, il y a l'idolâtrie, il y a un cadre qui n'est absolument pas favorable, mais il n'empêche que Dieu a suscité une église. Et ça, c'est important de le retenir parce que nous pouvons peut-être chercher, des lieux qui seraient plus commodes pour rendre témoignage, des cadres plus sympathiques pour évoluer en tant que chrétien. Mais en fin de compte, où sont les cadres sympathiques? Où sont les lieux favorables? Parce que dans n'importe quel lieu où nous allions, il y a toujours des handicaps, il y a toujours une forme d'opposition. Alors bien sûr, on peut toujours juger que l'opposition des autres, elle est plus facile que celle que nous endurons. Bon, ça c'est des jugements qui sont approximatifs. En fin de compte, l'opposition, elle est là. Mais lorsque nous faisons confiance au Seigneur, le Seigneur est celui qui facilite les choses. Et là, je fais juste une parenthèse en faisant allusion à mon voyage en Jordanie. On a essayé, puisque nous étions deux avec Claudio, on a essayé de comprendre un petit peu pourquoi la Jordanie, dans cette région du monde, joue un rôle important. Et comment les autorités, comment le roi, est très aimé de son peuple, et comment les choses avancent. Et on s'est rendu compte que le père du roi actuel, donc sa mère, était anglicane, donc la femme d'Hussein, le roi d'avant. Voilà. Donc, c'est pas tout à fait comme Moïse sur les genoux de sa mère. Mais en fin de compte, il a été confronté dans son enfance, dans sa jeunesse, aux pratiques de la religion de sa mère. Et en fin de compte, il est très favorable aux chrétiens dans son pays. Au point que le général auquel j'ai fait allusion, c'est un homme qui était chrétien, donc de par sa famille. Et ça ne l'a pas empêché qu'il fasse ses études militaires, qu'il monte en grade, et qu'il arrive à devenir au plus haut grade, général-major, donc dans son pays, qu'il ait fait partie à l'époque des militaires jordaniens qui ont négocié le traité de paix avec Israël, traité de paix qui a été signé sur le pont Allenby, donc qui est un pont qui traverse le Jourdain du côté de Jéricho. C'est d'ailleurs un des points de frontière avec la Jordanie, c'est là que nous sommes passés. Et c'est en voyant les photos que j'ai mieux compris l'histoire de ce pont. C'est qu'en 1948, les Jordaniens ont détruit ce pont. Et en 1993, quand ils ont signé le traité de paix, c'est le bataillon de ce général qui a reconstruit le pont. Et ils sont venus de part et d'autre, les officiers israéliens et les officiers jordaniens, pour se toucher la main. Et ensuite, ils ont signé le traité de paix. Donc le général, dans son bureau, nous a montré toutes les photos qui relataient donc ces faits. Et on a été impressionné quand même qu'un homme chrétien puisse gravir tous les échelons dans un pays musulman, arriver à ce stade, et être ensuite député, et être le premier conseiller du roi. Donc, on réfléchissait un petit peu avec Claude Huot, puisqu'il y a deux, trois autres éléments, le grand vizir qui est venu nous rencontrer, bon, lui, il est docteur en théologie musulmane, il enseigne l'islam, etc., et il est favorable aux chrétiens, et c'est le conseiller des deux princes jordaniens actuellement au palais. D'ailleurs, quand on a voulu passer la frontière, il y a quelqu'un qui nous a fait des histoires, parce que Claude Huot, il a voulu acheter un petit poignard en souvenir. Il fait la collection des poignards, et il a acheté un poignard, et il l'a mis dans sa Bible. C'est un poignard qui est long comme ça. Alors, déjà, ils ont eu un problème avec moi parce que j'avais un grand paquet de gâteaux et ils ne comprenaient pas ce que c'était qu'il y avait dans la boîte. Donc il a fallu vider la valise. Et comme j'avais mis le paquet dessous pour pas que ça soit écrasé dessus, il a fallu tout sortir. Lui, il avait la même boîte de gâteaux, mais il continue à fouiller. Et puis après, je m'approche, je lui dis, ça doit être ton couteau. Et en effet, c'était le couteau. Et là, ça n'a pas été simple. Alors, on a essayé de discuter, de dire, ouais, mais on a rencontré des gens, etc. Et moi, d'un coup, je montre la photo où je suis avec Claude Huot et le grand vizir. Et le militaire, là, il regarde, il dit, le grand vizir, il dit, oui, c'est un ami. Il a fermé la valise et on est passé. Comme quoi. Donc, du coup, on pensait un petit peu à ce que l'Écriture nous montre quand Daniel, pendant une soixantaine d'années, a été au service des rois de Babylone. Et quand on a voulu l'accuser, on n'a rien trouvé à redire. Et nous savons qu'avec Cyrus, eh bien, ça a été très, très marquant. Ou Esther, qui a été pour un temps et qui a pu sauver son peuple. Et on a l'impression qu'en Jordanie, eh bien, il y a quelques personnages clés qui sont là et qui facilitent au niveau des chrétiens et des réfugiés chrétiens des pays environnants. Et je crois qu'il y a des fois des choses qui nous échappent un petit peu. Et je crois qu'il est important que nous soyons, eh bien, sérieux dans la société où nous sommes, dans le cadre où nous sommes, parce que nous pouvons jouer peut-être un rôle clé. Moi, personnellement, il y a quelque chose que je caresse dans mon cœur. Maintenant, c'est peut-être un rêve, hein, qui se réalisera jamais, c'est que en Europe, le christianisme, c'est pas brillant. Dans n'importe quel pays où vous allez en Angleterre, vous allez en Allemagne, vous allez en Espagne, vous allez au Portugal, même s'il y a des petits sursauts, je veux dire, c'est pas glorieux. Par contre, je pense que si en France, quelque chose se passait, eh bien, il y aurait des répercussions sur toute l'Europe. La France a joué un certain rôle. Bon, déjà, la CGT a été créée à Limoges, à l'époque. Bon, il y a eu une influence, peut-être pas toujours de la bonne influence. Il y a les droits de l'homme pour la France. La France a eu, disons, un certain rayonnement. Et je suis persuadé que si quelque chose dans le monde spirituel, au niveau de l'Évangile, au niveau de Jésus-Christ, se produisait en France, eh bien, il y aurait des répercussions dans notre pays. C'est un rêve. Je ne dis pas que c'est une parole de Dieu, absolument pas, mais voilà, c'est quelque chose que je caresse et que j'ai partagé avec Gérard Fau il y a déjà quelques années. Et je pense que ce qu'il faut, c'est que là où nous sommes, nous soyons vraiment sel de la terre et lumière du monde. Malgré donc cette synagogue de Satan, une église a été créée. Et au sein de la souffrance, eh bien, elle a su se développer. Ils étaient pauvres aux yeux du monde, mais ils étaient riches pour Dieu. Les chrétiens de Smyrne appartenaient-ils à la classe sociale la plus basse? On ne sait pas. La ville était riche et prospère. C'était pas facile de faire des affaires en étant honnête, mais il n'empêche qu'ils étaient riches pour Dieu, ils étaient riches dans le domaine, eh bien, de leur foi. Les calomnies, les fausses rumeurs concernant les chrétiens empoisonnaient les esprits. La médisance exerce une étrange fascination sur chacun d'entre nous, mais c'est Satan qui est appelé l'accusateur des frères, le calomniateur, le menteur, le père du mensonge. Et malgré tout ce qui se disait dans cette cité sur le christianisme et les chrétiens en particulier, eh bien, Dieu veillait sur les siens. La pauvreté et la calomnie étaient les deux expériences d'affliction des chrétiens de Smyrne, mais ça ne les a pas démoralisés, ça ne les a pas détruits. J'ose dire même que peut-être ça les a quelque peu stimulés et ils sont allés de l'avant. Il est question d'une persécution de 10 jours. Ne crains pas ce que tu vas souffrir, voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Alors, est-ce 10 jours, 10 fois 24 heures? C'est possible. Est-ce une allusion à un temps, plus ou moins long, plus ou moins défini? C'est aussi possible. Et quand on regarde dans l'Écriture, on voit que Daniel et ses compagnons ont été éprouvés pendant 10 jours. Ils ont refusé de manger les viandes qui étaient sacrifiées aux idoles. Ils ont voulu simplement manger des légumes, des fruits, et en fin de compte, ils avaient plus d'embonpoint que ceux qui mangeaient les mets du roi. Il faut bien retenir que leur prise de position n'était pas de ne pas manger de viande. Daniel et ses compagnons n'étaient pas devenus brutalement des végétariens, c'est pas du tout ça. Mais il y avait une tradition, une coutume, c'est que les animaux, ils étaient offerts aux divinités avant d'être mis à mort et ensuite on consommait la viande. Et eux ne voulaient pas indirectement être associés à ces animaux sacrifiés aux idoles. Donc ils ont voulu simplement manger eh bien, des légumes et manger des fruits. Il n'empêche que Dieu les a bénis. Ben voilà. D'un coup, il y avait plus de vitamines dans les oranges et dans les poireaux, dans les pommes de terre, hein, et ils avaient plus d'embonpoint que les autres. Et Smyrne a eu son affliction de 10 jours. Mais les gens de Smyrne, eh bien, sont ressortis de cela victorieux. Si on regarde l'histoire de l'Église, l'Église des catacombes a eu son épreuve de 10 jours. Un certain nombre de périodes notoires de persécution dans les premiers siècles de l'ère chrétienne, eh bien, n'ont pas entravé, n'ont pas détruit l'Église. Mais l'Église a continué, eh bien, de progresser. Et ce temps dépeint prophétiquement la période du 2e et 3e siècle. Période sombre quant aux tribulations, mais glorieuse quant à l'esprit qui animait les chrétiens. Et quelqu'un a dit que le sang des martyrs a été la semence de l'Église. Le sang des martyrs a toujours été la semence de l'Église. Persécutée, elle est affermie et elle est épanouie dans la vie spirituelle. Le christianisme des catacombes, a dit quelqu'un, a été plus puissant que celui des cathédrales. Et c'est important de retenir cela. Et il est dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ni le monde, ni la religion, ni les sectes, ni la politique, ni ceux qui te méprisent, eh bien ne pourront t'anéantir. Tiens bon, et crois en Dieu, et tu triompheras. Et aujourd'hui, eh bien nous pouvons connaître ce type de problème. Vous avez certainement su qu'il y a quelques mois en arrière, dans une de nos églises, il y a deux frères qui ont cru bon de distribuer un prospectus sur lequel figure le témoignage d'un homme qui était homosexuel, qui a rencontré Jésus-Christ et qui s'est converti et qui dit simplement avoir été délivré de son homosexualité. Je veux dire, c'est des termes qui sont très banals. Il n'y a pas une attaque contre l'homosexualité, il n'y a pas de jugement, c'est un simple témoignage. Et ils se sont donc retrouvés au tribunal. Il y a une association qui, en France, défend donc ce problème de discrimination, et cette association les a mis au tribunal. Donc, ils ont été condamnés, mais ils ont donc fait appel. Et l'appel est passé cette semaine. Et en fin de compte, le jugement est mis en délibéré, et dans ce que préconise le procureur, il y a 5 mois de prison avec sursis, et après, je ne sais plus combien, c'est 3 000 euros d'amende, je crois. 3 000 euros d'amende pour chacun. Donc, on va voir ce qui va ressortir. C'est quand même extrêmement inquiétant d'arriver à ce stade-là, d'autant plus qu'il n'y avait pas d'attaque directe. Mais bon, voilà. Alors que dans cette même semaine, il y a quelqu'un qui a traité son coiffeur d'homosexuel, mais en employant 2 lettres que je ne vais pas prononcer. Alors c'est vrai que ce n'est pas le tribunal, ce sont les prud'hommes qui ont jugé que c'était absolument pas discriminatoire. Et le gars, il a été débouté. Voilà. Donc, voilà. Alors c'est vrai que nous avons besoin d'une certaine prudence, on ne va pas chercher la provocation, mais nous sommes quand même dans un cadre de vie qui est quand même extrêmement, compliqué. Mais il est dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir, parce que tu seras vainqueur. La vérité nous rend toujours forts, parce que Dieu est un Dieu de vérité, et Dieu sera toujours du côté de ceux qui vivent dans la vérité, qui aiment la vérité pour être sauvés. Ça ne signifie pas qu'on n'aura pas des difficultés, des bâtons dans les roues, mais bon, Dieu sera toujours avec nous. Et une récompense est promise, la couronne de vie. C'est d'ailleurs la même couronne qui est promise à l'église de Philadelphie. Elle est proposée aux croyants qui, dans la vie chrétienne, ont combattu et ont triomphé en Jésus-Christ. Et il est dit, celui qui est le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie, lui seul peut promettre une protection, une aide. Il est présent, il est vivant, il est tout-puissant. C'est Jésus-Christ, notre Sauveur. Smyrne, son nom signifie myrrhe. On en faisait un parfum servant d'antispasmodique. Nous nous souvenons que Jésus a refusé le vin mêlé de myrrhe pour atténuer ses souffrances. Il voulut souffrir à l'extrême pour nous, sans subterfuge. Les mages ont apporté de la myrrhe à Bethléem, symbole des souffrances et de l'humanité de Jésus. Nicodème et Joseph d'Arimathée embaument le corps de Jésus avec de la myrrhe, le sacrifice, les souffrances des chrétiens de Smyrne glorifient le Seigneur. Ils vivaient dans la foi en celui qui est vivant. Et on pourrait dire qu'ils étaient un petit peu comme Moïse. Ils avaient les yeux fixés sur la rémunération. Et aujourd'hui, eh bien, le Seigneur cherche des hommes et des femmes qui s'offrent, qui se donnent, qui se mettent à disposition sans contrainte, d'une façon délibérée. Ils veulent aimer, ils veulent servir celui qui les a aimés, le premier, et celui qui s'est donné à la croix pour chacun d'eux. Voilà un petit peu ce que l'on peut dire en ce qui concerne Smyrne. Je vous ai dit ce matin que c'était une petite église. Alors maintenant, on peut voir la deuxième. On a le temps. Donc, on va parler de Pergame, puisque elle aussi, c'est un résumé qui est assez court. Et on va lire, eh bien, ce qui concerne Pergame. Donc, à partir du verset 12. Je vais m'y retenir, m'y retrouver avec mes feuilles. Voilà. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les filles d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Pergame. Pergame, en fin de compte, c'est l'église du mélange. C'est l'apparition du cléricalisme. C'est l'acceptation du compromis. C'est aussi la persévérance pour ne pas renier le nom du Christ là où Satan a son trône. Donc Pergame, l'église du mélange. Pergame a été la ville la plus célèbre d'Asie. Et aujourd'hui, il y a sur son emplacement un petit village, tout petit, du nom de Pergame. Alors, c'est rien du tout, hein. C'est des petites maisons, là, en pisé, il y a quelques chiens. Enfin, je veux dire, c'est franchement rien. C'est tout ce qui reste de la célébrité, eh bien, de cette ville à l'époque. Par contre, l'origine remonte à la nuit des temps. On n'arrive pas à fixer quand cette ville a vu le jour. En fin de compte, dans la mémoire des hommes, Pergame a toujours existé. Un des prestigieux monarques, du nom d'Eumène II, a constitué une bibliothèque, à l'époque, de 200 000 volumes. Et plus tard, l'empereur Antoine offrait cette même bibliothèque à Cléopâtre, reine d'Égypte. Tout était démesuré dans cette ville. Derrière la ville s'élevait une colline de 300 mètres remplie des temples d'Athéna, de Bacchus, d'Esculape, qui est le dieu serpent de la santé, et celui de Zeus sur l'Acropole, dénommé temple de Satan, et bien d'autres encore. En 29 de notre ère, le sanctuaire de Jupiter y fut bâti. Et l'autel a été démonté colonne par colonne et reconstruit avant la Première Guerre mondiale à Berlin, dans un musée dédié, et il y est encore de nos jours dans le secteur est de la ville. Ce qui a amené des gens à dire, il faut beaucoup d'imagination, mais enfin ça s'est dit, l'Europe, l'Allemagne, et ce temple de Satan à Berlin. Voilà. Bon, on ne va pas épiloguer sur le sujet, mais bon, ça s'est dit. Voilà. Et la cité était livrée à l'idolâtrie. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au centre. Voilà, c'était des pratiques idolâtres, disons, totale. L'église de Pergame, ben compte, on ignore tout de son origine. La lutte a été intense parce que, au verset 13, il est dit « Je sais où tu demeures et je sais que là est le trône de Satan. » Donc, voilà. Et il n'empêche que là aussi, là où se trouvait le trône de Satan, tout à l'heure c'était la synagogue de Satan, là c'est le trône. Donc c'est le siège social. Hein. Eh bien, une église a vu le jour. On ne sait pas comment ça a commencé, mais ça a commencé et ça s'est, eh bien, continué. Dans ce lieu où le diable lui-même dictait ses lois, Dieu a suscité une église. Comme quoi, pour lui, rien n'est impossible. Et cette église, en fin de compte, va réagir contre l'idolâtrie. Et pour ce faire, eh bien, ils en ont payé le prix fort. Au point que tout de suite, il est dit, tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi. Tu n'as pas renié, ça veut dire qu'il y a eu des pressions pour qu'ils puissent la renier. Mais ils ont tenu ferme, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Donc c'est très très fort. Et bien d'autres, moins connus, sont morts aussi dans cette ville. L'histoire nous parle de Agathonis, Attilas, Carpus, Polybus, etc. Des noms qui ne sont pas cités, mais dans l'histoire de l'Église, on retrouve ces noms. Donc des hommes qui ont joué un rôle clé dans l'histoire de l'Église et de l'Église de Pergame et qui ont été exécutés à cause de leur foi, qui n'ont pas voulu renier, eh bien, le nom de Jésus. Et c'est vrai que dans la société, il y a cette tendance au compromis. Mettez-vous à ma place. On n'a pas spécialement envie d'être à votre place. Oui, mais j'ai pas pu faire autrement. Regardez, parce que sinon, comment je fais? Voilà. Et il y a cette tentation, eh bien, de jouer un petit peu sur les mots, voire sur les chiffres. On oublie un zéro dans sa déclaration d'impôt. Hein. Un zéro, c'est pas grand-chose. Hein. Mais bon, voilà, c'est la tentation du compromis. Et trop souvent, les compromis sont proposés par l'adversaire pour que la lutte soit moins intense, que la vie soit moins difficile. Alors, souvenons-nous, par exemple, de ce qui nous est rapporté dans Josué. Le peuple était là, à la suite de Moïse. Ils arrivent dans une contrée. Et ils disent à Moïse, écoute, nous, on va rester là. Nos femmes sont fatiguées, nos enfants ne peuvent plus, les troupeaux, c'est pas évident. Donc la contrée est agréable, et puis on va s'installer, on va installer nos familles, on va mettre des parcs pour les troupeaux. Et Moïse a refusé, et puis il a fini par céder, parce que les hommes ont dit, mais quand on aura fait tout ça, eh bien, on vous rejoindra. On accélérera le
le bas, on vous rejoindra.
Et une partie du peuple a continué sa route et les gens sont restés dans cette contrée. Et il est dit que ils ont bâti un autel, mais un autel démesuré. Et il est dit qu'ils ont fait cet autel pour se rassurer et pour rassurer ceux qui avaient continué le chemin et qui allaient mener bataille. Mais, quitte à faire quelque chose, ils ont fait quelque chose qui était parfaitement visible, connu de tous, pas un petit autel, mais un grand autel. Et au bout du compte, ça a rassuré personne. La base de la construction de cet autel, c'était l'inquiétude. Et quand on fait quelque chose sur la base de l'inquiétude, en général, on n'est pas dans la bonne ligne. Et ceux qui avaient continué la route, ça s'est dit, que ceux qui étaient restés avaient construit un autel démesuré. Et qu'est-ce qu'ils ont pensé? Ben, ils ont pensé que c'était une scission. Et ils se sont retrouvés au bord de la guerre civile. Parce qu'ils étaient presque prêts à faire demi-tour pour aller leur donner une leçon. Et c'est vrai que quand on cherche à faire des compromis, eh bien on peut se faire piéger. Et quelquefois, il y a des gens eh bien, qui ont fait certaines choses d'une façon quelque peu démesurée, quelque peu exagérée, pour essayer de se rassurer et surtout pour rassurer les autres. Moi, j'ai trouvé dans l'exercice du ministère, M. Tichy certainement aussi, et Jean Bosco aussi, les gens, on les voit pas à l'église. Vous allez leur rendre visite et vous dites, mes frères, vous inquiétez pas. Moi, je lis ma Bible, je prie, je fais que ça. Pourquoi pas? En plus, on ne leur demande pas ça. Mais d'entrée, ce sont les premières paroles qu'ils nous livrent. Je prie, je lis la Bible, je fais que ça. Presque, ils en font plus que ceux qui viennent régulièrement à l'église. Ils disent ça pour nous rassurer, mais ça ne nous rassure pas. Ça nous inquiète parce qu'ils sont trop spirituels. Et ils essaient peut-être de se rassurer eux-mêmes, mais ils savent très bien que c'est pas tout à fait ça. C'est comme la dame un jour qui est arrivée à Perpignan, et je la salue à la fin de la réunion. Je dis, bonjour madame, c'est la première fois que vous venez. Elle me dit, non monsieur, moi je viens régulièrement. Écoutez, je vous ai pas remarqué. Vous habitez Perpignan? Mais oui, bien sûr, j'habite Perpignan. Elle me dit, je connais très bien le pasteur. Elle dit, ah bon, il s'appelle comment? Elle me dit, c'est monsieur Quintin, le pasteur. Je dis, oui, mais ça fait 6 ans qu'il est parti, le nouveau pasteur, c'est moi. Oui, c'est vrai que je viens pas souvent. Bon, parce qu'elle a eu vraiment de la répartie, elle s'est pas démontée. Hein. Oui, mais c'est vrai, je viens pas souvent. Bon, mais en fin de compte, je pense qu'elle était, en quelque part, sincère. Je pense pas qu'elle me racontait une histoire volontairement. Voilà, elle connaissait, elle était là, bon, il s'était écoulé 6 ans, bon, c'est pas grave, hein, 6 ans, 6 jours, 6 heures, c'est tout pareil. Voilà, et c'est vrai que le temps passe et on se rend pas compte, bien souvent. Et c'est quand, à un moment donné, on fait le point qu'on se dit, waouh, pour ce qui me concerne, ça fait 8 ans que je suis plus en charge d'église. Et maintenant, quand je calcule, je dis, bon, attends, l'événement, parce que l'autre jour, j'ai dit quelque chose, j'ai dit, voilà, ça fait 5 ou 6 ans, et la personne me dit, vous êtes sûr? Ah ben non, ça fait 8 ans que je suis plus à Perpignan, donc ça fait plus de 8 ans. Et on n'a pas l'impression que le temps s'écoule. Hein. Et c'est vrai que nous avons besoin de faire attention aux compromis. Abraham connaissait son histoire. Il craignait d'être tué à cause de sa femme et il préfère être bien traité. Donc, il s'est permis le mensonge en disant que c'était sa sœur. Seulement, sa sœur, hein, il y avait des risques de toutes sortes de conséquences. Hein. Et je ne sais pas s'il avait vraiment mesuré la chose de voir sa sœur, en fin de compte sa femme, dans les bras d'un autre, parce que l'autre c'est ça qu'il voulait. Et le compromis peut nous jouer des tours, disons, très très difficiles. La recherche du compromis fut le signal de la défaite. David, c'est pareil, quand il s'est réfugié au pays des Philistins, si on reprend un petit peu, ça a été aussi une catastrophe. Le déclin est sans doute imperceptible au départ, mais rapidement, il devient irréversible. Parce qu'on finit par prendre des habitudes. On veut concilier l'inconciliable. Le ciel et l'enfer n'arriveront jamais à conclure un armistice. Ce n'est pas possible. La Bible dit que celui qui se sanctifie encore. Que celui qui se souille encore. Non pas que nous soyons encouragés à la souillure, mais où je suis d'un côté, où je suis de l'autre. Je ne peux pas comme ça jouer sur les deux tableaux. Balaam, il est question de l'esprit de Balaam, et il est question également des Nicolaïtes. Balaam, ceci nous rappelle l'Ancien Testament, l'ânesse, qui reprend le faux prophète sur son chemin de désobéissance. Il était prophète. Il lui arrivait de temps en temps de dire des choses qui étaient vraies, mais c'était quand même pas un prophète de Dieu. Et la voix de Balaam, cela signifie vouloir obtenir un oui de Dieu, alors qu'il a dit non. Il avait cette réputation d'être prophète. Alors on le consulte, qu'est-ce qu'on doit faire? Et Balaam, il dit à Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Non. C'est non. On lui promet de l'argent, alors il reconsulte, et qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il avait l'argent dans la poche. Il connaissait la réponse, mais il aurait aimé avoir une autre réponse. Alors Dieu dit, eh bien, fais. Mais c'est pas que Dieu a changé d'avis. C'est puisque tu n'as pas compris ce que je t'ai dit, eh bien maintenant tu vas l'expérimenter toi-même. Et qu'est-ce qui va se passer pour Balaam? Il va mourir sous le tranchant de l'épée. Voilà. Et la voix de Balaam, eh bien, c'est celle du compromis. Vouloir obtenir absolument quelque chose, alors qu'on sait que ce quelque chose, eh bien, ne nous est pas promis et ne nous sera jamais accordé. Il fit appel aux puissances maléfiques pour entraver la marche du peuple d'Israël. Il s'égara. La doctrine de Balaam, c'est de détruire le peuple de Dieu de l'intérieur. Puisque Balak de l'extérieur n'y parvient pas, parvenir à le faire désobéir aux consignes morales. Non seulement Balaam va mourir, mais il y a eu ce jour 24 000 morts. Les innocents ont péri. Et le danger, on en a parlé pour Éphèse, il est question de ceux qui viendront de l'extérieur, mais il est question aussi de ceux qui se lèveront de l'intérieur. Alors, un bouclier, dans l'armure du chrétien décrite par l'apôtre, il y a le bouclier. Le bouclier, on l'a devant soi. Pour retenir la lance, pour retenir les flèches, pour retenir le coup du glaive. Le bouclier, il est là. C'est la main gauche. Et avec la droite, il y a l'épée. Et on essaie de se protéger. Derrière. Parce que c'est pas prévu qu'on vienne nous frapper dans le dos. Parce que derrière, c'est les copains qui sont. C'est les amis. C'est ceux qui font partie de la même troupe. L'adversaire, il est en face, il n'est pas derrière. Voilà. Et c'est vrai que l'Écriture nous met en garde contre le danger de l'extérieur et contre le danger de l'intérieur. Et le danger de l'intérieur, eh bien, ce peut être les fausses doctrines, les petites choses qui commencent à apparaître comme ça. Et puis, ouais, mais le frère, il est sympa. Bon, ça fait réfléchir un peu ce qu'il dit. On est surpris, enfin, sait-on jamais. Et puis, on commence comme ça. Et puis, au bout de quelques temps, eh bien, ce qui, au départ, nous surprenait, eh bien, voici que ça fait force de loi. Et c'est comme ça que les fausses doctrines, eh bien, sont apparues. Et aujourd'hui, elles sont pas nouvelles. Parce que dans ce domaine, il n'y a rien de nouveau. C'est comme la bête. Elle était, elle est plus, elle réapparaît. Ce sont des choses qui n'étaient plus, disons, au goût du jour, qui ont été oubliées. hein, qui pour diverses circonstances, eh bien, réapparaissent quelque peu et affaiblissent, eh bien, le peuple de Dieu. Et puis, il y a les œuvres des Nicolaïtes, parce que eux, quitte à être dans la déroute, eh bien, ils avaient la totale. Et déjà, à Éphèse, elles sont mentionnées, elles sont haïes. Donc, on suppose que c'est Nicolas d'Antioche, nous l'avons dit, ou un clergé dominateur. Et à Pergame, ceux-ci séduisaient déjà les croyants par leur doctrine, et ils étaient associés aux Balaamites. Le seul remède, c'est la repentance. La repentance qui est une remise en ordre, c'est ce qui est dit, eh bien, au verset 16. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Récompense promise aux vainqueurs. La manne était la nourriture quotidienne des Israélites au désert. Connaissons l'histoire. Ils devaient, avant le lever du soleil, tous les jours, sauf le jour du Shabbat, eh bien, ramasser la manne. Et s'ils allaient au-delà de l'heure, eh bien, elle périssait. C'était plus du tout consommable. Et le Seigneur réserve cette nourriture secrète et caché à ses fidèles. Il réserve à son peuple un aliment spirituel dont la teneur échappe à l'analyse de la raison, sa parole. Et ça, c'est important. Cette parole qui échappe aux analyses de la raison, aux intellectuels ou autres. Mais en fin de compte, cette parole, quand on la reçoit, elle nous fait du bien. Elle nous nourrit. Elle nous rassure, elle nous encourage, elle nous fait du bien. C'est une nourriture quelque peu secrète, entre guillemets, mais quand cette parole qui est parole de Dieu, cette parole qui demeure éternellement, est reçue dans le cœur, eh bien, elle procure une force inouïe et un encouragement, eh bien, assez remarquable. Maintenant, il est question aussi des pierres. Il est dit, alors, où est-ce que c'est ? La manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Le monde antique attribuait de nombreux sens aux pierres. Et autrefois, le caillou noir était jugement et le caillou blanc était acquittement. Quand il s'agissait autour de la table de se prononcer, d'émettre un verdict, eh bien, il y en a qui avançaient le caillou noir. Et voilà, à la majorité, vous êtes condamnés. Ou ils avançaient le caillou blanc, et à la majorité, eh bien, vous êtes acquittés. Et il est dit, on lui donnera un caillou blanc. Le caillou de l'acquittement. Parce que quelqu'un a payé pour nous. Je ne suis plus sous le jugement. Je suis acquitté. Je suis gracié. Je suis sauvé parce que le sang de Jésus a été versé à la croix. Autrefois, le maître de cérémonie, lors d'un banquet, inscrivait les noms des invités sur un caillou blanc. Quelquefois, on a, selon chez qui on va, eh bien, un petit carton qui est là, surtout s'il y a beaucoup de monde, et puis on cherche, hop, tac, on est là, et c'est là qu'on découvre qui est à gauche et qui est à droite. Une place soigneusement préparée par le Seigneur aux noces de l'agneau. Nous aussi, nous aurons notre place. Il est parti nous la réserver. Alors, je ne sais pas si vraiment ça sera un caillou, mais nous savons que notre place est réservée. Symbole dans l'Antiquité à un bulletin de vote. Paul rend son témoignage à Agrippa. Et il raconte comment, lors du meurtre d'Étienne, il a joint son suffrage pour qu'Étienne soit lapidé. Et littéralement, il a joint son caillou à celui des autres. Donc, l'histoire du caillou, c'est très important. Il nous faut donc résolument, sans hésitation, voter pour Jésus-Christ. Il faut avancer notre caillou. Il faut mettre notre suffrage. Il faut que je puisse m'engager. Et dans le domaine de la chrétienté, il n'y a pas de vote blanc. Il n'y a pas de vote neutre. On ne s'abstient pas. On vote. On se prononce. Pour ou contre. Et bien sûr, nous sommes de ceux qui votons pour, en faveur. Nous souhaitons, nous attacher au Seigneur de tout notre cœur. Nous nous éloignons de l'iniquité pour nous attacher à celui qui est le Seigneur. Le mélange, le compromis, l'infidélité entraînent la mort. Et connaissant le souci du Christ pour le triomphe de la vérité, connaissant l'ardeur que met Satan à répandre les mensonges, nous sommes appelés à garder intact ce qui nous a été confié. C'est la raison pour laquelle, dans l'épître de Timothée, dans l'épître de Jude, il est dit, nous sommes invités à lutter pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes à ceux qui appartiennent à Dieu. Nous défendons pied à pied nos valeurs. Et ça, c'est extrêmement important. Nous devons nous attacher à cette vérité, dans l'amour, et c'est ce que nous pouvons, retenir en ce qui concerne l'église de Pergame. Alors, si vous n'aviez pas lu récemment les lettres des églises de l'Apocalypse, donc vous avez été pris un petit peu de cours avec ces trois, mais pour lundi, vous allez au moins lire ce qui est dit concernant Thyatire. D'accord ? Et avant de commencer le premier mot de la méditation, vous me le réciterez. Alors là, vous êtes moins d'accord, c'est pas grave. Voilà ce que nous pouvons partager aujourd'hui. On bénit Dieu.